m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il est d'abord journaliste, présentateur du journal du soir sur la chaîne publique portugaise. Il a aussi été grand reporter et correspondant pour CNN et la BBC. Mais depuis son premier roman, publié en 2002, José Antonio Afonso Rodrigues dos Santos est aussi un romancier qui aligne les best-sellers. Ses thrillers historiques et scientifiques, notamment ceux qui mettent en scène son personnage fétiche, le professeur Thomas Noronha, spécialisé en cryptologie, ont ainsi été traduits dans près de 20 langues. Il nous compte cette fois-ci une ambition et un destin hors normes, celui d'un jeune Arménien né peu avant le déclin de l'Empire ottoman, qui va passer l'orée du XXe siècle à grandes enjambées, jusqu'à devenir l'un des hommes les plus riches du monde, un roi du pétrole et un des plus grands collectionneurs d'art de tous les temps. Après la formule de Dieu, la clé de Salomon, Vaticanum et signe de vie, voici donc une histoire qui mêle argent, sexe, finance et géopolitique. L'homme de Constantinople, traduit du portugais par Adelino Pereira, vient de sortir en France aux éditions Hervé Chopin et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Gilles dos Santos.
Bonjour.
C'est vrai que la première surprise du livre, c'est que votre héros, Thomas Noronha, est aux abonnés absents. Il était trop envahissant.
Oui, bon, ce qui se passe, c'est que je fais deux genres de romans. Je fais les romans que j'appelle des mystères réels, ce sont les romans de Thomas Noronha, mais aussi je fais des romans historiques. J'ai publié une dizaine en portugais, mais en général, ils ne sont pas traduits, parce que ce sont des histoires autour de l'histoire du Portugal, alors ça n'a aucun intérêt pour les autres audiences. Sauf qu'avec celui-ci, on parle d'un homme qui a évidemment une forte influence sur le Portugal, mais aussi sur la France, avec la différence que en France on ne le connaît pas.
Oui, sur la France et même sur l'Europe, hein, puisque c'est
sur le monde.
Et même sur le monde, parce que la géopolitique est vraiment au cœur de votre récit. Donc Calouste Sarkissian, c'est votre personnage, mais tout le monde pense à Calouste Gulbenkian. C'est lui qui a servi de modèle à votre héros.
En effet, c'est Gulbenkian, mais déguisé avec. En effet, Gulbenkian, il s'appelait Calouste Sarkis Gulbenkian. Voilà pourquoi Sarkisien dans mon bouquin. Mais c'est mauvaisement déguisé. C'est vraiment l'histoire de Calouste Gulbenkian.
Oui, vous n'aviez pas besoin de le rendre un peu plus romanesque, ce personnage. Il l'était déjà de par sa vie dans la réalité.
Oui, surtout, vous savez, ce qui m'a intéressé à ce personnage, c'est le fait que on dit souvent, on a cette vision conspirative de complot. Il y a des pouvoirs de haute finance derrière le monde, des gens qui manipulent même les politiciens, et le monde est une sorte de marionnette. C'est une vision évidemment conspirative, mais il y a quelques vérités dans cette vision. Et il y a ce genre d'homme d'ombre. Et voilà. C'est Calouste Gulbenkian est un homme comme ça. Il est devenu l'homme le plus riche du monde. Il a organisé le business du pétrole en Arabie Saoudite, au Koweït, en Irak, en Perse, en Venezuela. Il a été derrière la décision de changer du charbon pour le pétrole et personne ne le connaît. Il était un homme invisible. Comment est-il possible qu'une personne si importante qui a créé Elf Aquitaine pour donner le pétrole aux Français, qui a donné l'argent à César Ritz pour créer la chaîne Ritz.
La chaîne d'hôtel.
Exactement.
Mais alors, vous avez enquêté.
Oui.
Votre travail de romancier commence toujours par un travail d'historien ou de journaliste?
De historien plutôt, parce que mes recherches sont plutôt académiques que journalistiques. C'est pas une quête journalistique, c'est plutôt pour dénoncer quelque chose. Un académicien, c'est plutôt voir une chose en profondeur, comprendre les enjeux derrière les apparences.
Beaucoup de sources pour la vie de Gulbenkian?
Il n'a pas trop de sources, il y a quelques biographies. Il y a un livre que son fils a écrit. Et puis, j'avais accès à un procès que son fils a déclenché contre Calouste. Et dans ce procès judiciaire, Calouste, il a dû expliquer sa vie. Et puis, j'ai eu l'aide d'une personne de la famille qui m'a donné un tas d'informations sur Gulbenkian, et voilà comment le bouquin est né.
Bon, mais vous faites œuvre d'historien, Gilles dos Santos, mais tout est réellement arrivé?
Vous savez, un roman, c'est, pour moi, la grande littérature, c'est la vérité déguisée en fiction. Alors, c'est ce que j'essaie de faire ici. Je présente la vraie histoire de l'homme qui a trop influencé le monde, mais que personne ne connaît. J'utilise des techniques de fiction. J'imagine quelques dialogues, évidemment, quelques situations, que c'est un peu, par exemple, sa vie sentimentale.
Ah, voilà.
Bon, les gens ne parlent pas de ça,
oui,
c'est
alors,
normal.
J'allais y venir, quand même, son intérêt pour les très jeunes filles, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est sorti de la tête du romancier, ou bien...
Non, ça, tout est avéré.
Voilà, quand il paye sa préceptrice pour le déniaiser, hein, comme on dit en français, pour qu'elle lui fasse découvrir les plaisirs de la chair, là, on n'est pas dans le roman. C'est réellement partie de quelque chose de réel.
Le roman, c'est... Elle s'appelait, par exemple, Isabelle. Ça, c'est parce qu'on ne connaît pas le nom de ses filles. Alors, j'imagine une situation. Je sais, par exemple, qu'il était à Paris dans un café. Il voyait une fille qui travaillait dans le café. Mais elle est mignonne. Alors, il disait à sa secrétaire, écoute, prends cette fille-là. Et après, la secrétaire arrivait, parlait avec la fille. On va te donner l'argent, on va te donner les vêtements au Caillossard. C'était la grande maison des femmes à cette époque-là, au Christian d'Or, n'importe pas où. Et bon, elles étaient séduites. À 18 ans, il laissait cette fille
et changeait pour une autre plus jeune.
Mais on appelle ça aujourd'hui pédophilie. D'une certaine façon.
Oui. Bon,
18 ans, non, mais plus jeune, oui. Mais c'était pas par des raisons pathologiques, c'était par des raisons culturelles.
Alors, beaucoup, effectivement, de détails romanesques dans la vie de votre héros. Un destin réellement extraordinaire. Combien de tomes sont prévus, J.R. 212?
Sont deux tomes.
Donc, tomes. Le premier, effectivement, c'est L'homme de Constantinople. Et puis, le second, c'est Un millionnaire à Lisbonne, qui paraîtra en France en 2020.
Janvier. Alors, ça, bientôt.
Voilà. Donc, ça va aller très, très vite. Les lecteurs n'auront pas à patienter trop longtemps. Mais alors, donc, deux tomes que vous avez écrits, mais qui, dans le livre, dans une sorte de mise en abîme, ont été écrits par votre personnage lui-même. C'est ce que le lecteur apprend à la fin du prologue, qui met donc en scène le fils de Calouste, qui s'appelle Cricor, qui est appelé en urgence au chevet de son père mourant, et sa femme de confiance lui remet deux rames de papier, dont la première justement porte ce titre, L'homme de Constantinople. Constantinople, donc évidemment, l'actuel Istanbul. Et si le petit Calouste et ses parents sont arrivés à Constantinople, c'est parce qu'ils espéraient se protéger, parce qu'on sent monter dans la première partie du roman, au fil de vos pages, la haine des chrétiens, qui va conduire au génocide arménien perpétré par les jeunes turcs dans les années 1915-1916. D'ailleurs, il y a une scène donc qui intervient dans l'histoire avant 1915-1916, une scène durant laquelle le père de Calouste, qui s'appelle Vahan, va se faire humilier en public par les Turcs. Nous sommes page 46 de votre livre.
Les gens s'inclinaient devant les Sarkissians et même les carrosses et les fiacres ralentissaient afin de ne pas projeter de boue sur ces éminentes personnalités. Vahan se sentait le maître tout-puissant de Trébizonde, mais sa femme, non dénuée de réalisme, avait conscience que tout cela n'était qu'illusion. Voilà pourquoi ce jour-là, quand elle aperçut trois soldats turcs qui chevauchaient dans la rue, Vérone saisit son mari par le bras et l'attira sur le trottoir. « Fais attention », l'avertit-elle, « des cavaliers arrivent ». Le valet de la ville secoua le bras pour se libérer. « Allons, femme, qu'est-ce là ?» protesta-t-il. « Ce sont eux qui doivent faire attention, ce sont eux qui doivent... » Deux petites giclées de boue volèrent alors dans les airs et atteignirent Vahan à la poitrine et au visage, lui clouant le bec. C'étaient les chevaliers turcs qui passaient. « Fais attention », dit sa femme. Irrité par ce qui venait de lui arriver, son mari leva sa canne et appuya la pointe sur l'un des chevaux. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria-t-il en direction des soldats. « Soyez prudents, vous entendez ? Et du respect ?» Le cavalier qui était devant tira sur les rênes et arrêta l'animal. Il fit demi-tour et s'approcha lentement de Vahan, observant l'Arménien du haut de sa monture. D'un geste leste et inattendu, il agita la cravache qu'il tenait à la main et frappa l'homme en plein visage, faisant voler le fez grenat. « Du respect, c'est toi qui dois en avoir, Giaour !» hurla-t-il avec une rage mal contenue. « Tu te prends pour qui ? Le sultan ? Vous autres, les chrétiens, vous croyez tout permis. Vous voulez l'indépendance, hein ? Vous voulez des droits ? Mais avec le nouveau sultan, nous allons vous faire rentrer dans le rang. Tu entends, chien ?» Stupéfait par le ton ferme et agressif du cavalier, Vahan regarda autour de lui comme s'il cherchait de l'aide. Il se rendit vite compte que personne ne lui en apporterait, et, prenant enfin conscience de sa totale impuissance, il inclina la tête en signe de soumission. « Oui, Effendi. » Le soldat montra une flaque dans le sol boueux. « On va commencer, et tout de suite, rugit le Turc. Quand passe un maître, le domestique s'agenouille. Allez, à genoux !» Devant l'hésitation de l'Arménien, le cavalier leva le bras et la cravache s'abattit une fois de plus sur la tête de la victime. Incapable de résister, Vahan céda et le puissant Vali de Trébizonde, chef du millet arménien local et homme d'affaires prospère aux multiples contacts auprès de la sublime porte, tomba à genoux. Le groupe rentra à la maison avec un sentiment d'incompréhension et d'humiliation. dans un état d'abattement total.
Et cette humiliation publique, Gérard Dos Santos, c'est évidemment un traumatisme pour le petit Calouste, mais un traumatisme fécond, parce qu'on peut dire que c'est aussi pour venger son père qu'il va réussir à devenir quelqu'un qui compte.
Peut-être, on ne saura jamais. Le fait, c'est que il y avait tout un enjeu géopolitique dans l'Europe. C'était l'époque des Lumières qui arrivait, des nationalismes. Alors, toutes ces nations qui étaient chrétiennes dans l'Empire ottoman se sont rendues compte que ils avaient des droits. Ils pensaient et ils voulaient être indépendants. Et c'était la Grèce, la Bulgarie, la Serbie, la Macédonie, tout ça. Mais le problème des Turcs, c'est que l'Arménie, c'était pas la périphérie, c'était le cœur de l'empire. C'était dans l'Anatolie. Et perdre l'Arménie voulait dire perdre l'empire. Et alors, sont les raisons plus profondes du génocide arménien qui va être très central dans le second tome de cette saga.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec l'écrivain portugais J.R. Dos Santos pour son roman L'Homme de Constantinople, qui nous raconte donc le destin de Calouste Sarkissian, destin largement inspiré donc de Calouste Gulbenkian, roi du pétrole, amateur de beauté, grand collectionneur d'art. Alors Constantinople, l'actuel Istanbul, c'est déjà au 19e siècle quand commence l'histoire, cette ville à cheval entre Orient et Occident, géographiquement, culturellement, économiquement, et on peut dire que le personnage de Calouste, eh ben, il incarne à la perfection la dualité de cette ville, c'est-à-dire comme elle, c'est vraiment un personnage entre Orient et Occident.
Oui, en effet, parce que c'est même aujourd'hui un petit peu le paradoxe de la Turquie, hein, un pays qui est entre l'Orient et l'Occident, et on trouve ça partout dans ce roman-là, parce que Gulbenkian, il était un homme du 19e siècle, et il était un homme de l'Orient, même s'il a vécu surtout à Londres et à Paris.
C'est là qu'il a fait ses études, en particulier quand il était jeune, donc à Marseille d'abord, à Paris ensuite, effectivement à Londres, King's College, donc voilà. Prestigieuse école londonienne.
Et c'est là qu'il a fait sa richesse. C'était même si c'était avec le pétrole de l'Empire ottoman. Parce que l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Irak, c'était tout, l'Empire ottoman. Il était même devenu le conseiller du sultan, comme on le verra.
Alors c'est un roman d'apprentissage aussi, hein, puisque dans ce premier des deux tomes, toutes les bases finalement du destin du personnage vous les posez, et notamment deux piliers qui sont le savoir et l'argent. Alors on va commencer par le savoir, parce que bon, il apprend énormément, il engrange énormément de renseignements, et en fait ce qu'il apprend, c'est toujours avoir un petit coup d'avance sur les autres, quoi, en fait. C'est un joueur d'échecs qui est en train de naître à travers vos pages.
Oui, il a compris que, puisque les Arméniens, ils n'avaient pas la force, ils devraient être malins. Un petit peu comme les Juifs dans le monde chrétien. Ils devraient être malins, sinon ils ne pouvaient pas survivre. Il a compris qu'il fallait avoir l'information avant les autres, et mettre l'argent où il faut le mettre.
Oui, il y a beaucoup de bakchich. Hein,
absolument.
Ça tourne très très vite. Hein, et il sait précisément à qui donner quoi, à quel moment, et forcer le destin par la petite monnaie.
Il a vite compris tout ça.
Oui, il comprend effectivement beaucoup de choses, parce qu'il a l'intelligence des hommes, donc il connaît leurs faiblesses, il a aussi l'intelligence des situations. Est-ce que c'est un tacticien, quelqu'un qui sait s'adapter en permanence, ou est-ce que c'est un stratège, quelqu'un qui a de grands desseins?
Je pense les deux choses. Premièrement, un stratège, parce que il a vu très vite que le pétrole, c'était très important. À son époque, c'était le kérosène, et c'était seulement pour l'illumination, pour les lumières et tout ça, pas pour les voitures. Et après que les voitures ont commencé à se bouger avec le pétrole, c'était encore plus important pour lui. Mais il a vu en tant que stratège, mais aussi en tant que tacticien. Par exemple, il y a une scène qui est expliquée dans le bouquin, et c'est passé quand il s'est enfoui de Constantinople. Il a trouvé au bateau un homme du pétrole de Bakou, un Arménien.
Zinoviev,
oui, qui s'est basé sur un personnage réel.
Personnage très rustre, très éloigné de son monde à lui.
Hein. Exactement, parce que c'est un Arménien russe, c'est pas un Arménien ottoman. Et il va jeter sa femme et son fils dehors la cabine pour amené cet Arménien pour le convaincre à le faire représenter son pétrole à Londres. Et alors ça, c'est une décision tactique.
Voilà, et tout, effectivement, toute son intelligence, tout son argent est mis au service de ses objectifs, y compris d'ailleurs dans sa vie amoureuse, quand il essaie de séduire la fille d'un autre homme d'affaires arménien beaucoup plus riche que son père. Donc à l'époque, il est vraiment très jeune, hein, il est encore un homme en devenir, un homme d'affaires vraiment en devenir, et il met au point presque un plan de bataille, quoi, pour que cette fille tombe
et toutefois,
dans son escarcelle.
Parce que c'est ainsi qu'il a séduit sa femme. En effet, il n'a pas séduit sa femme, il a séduit le père de sa femme, qui était le plus grand banquier de l'Empire ottoman. C'était un Arménien. Et c'est ainsi qu'il a arrivé à un autre niveau de richesse.
Est-ce que c'est un homme sans scrupules?
D'une certaine façon, c'était un homme qui avait une compréhension du monde, qui comprenait que le business, c'est sale et c'est moche. Et c'est peut-être à cause de ça qu'il était si attiré pour l'art et pour la question de la beauté qui est présente dans tout le bouquin.
Oui, parce qu'il y a une phrase qui revient très très souvent sous votre plume. Une phrase sous forme de question, d'ailleurs. Qu'est-ce que la beauté? Cette question, c'est vraiment effectivement l'un des fils rouges du livre. Il prononce cette question sur son lit de mort, hein, c'est ce qu'on découvre vraiment dans le prologue, c'est ainsi presque que commence le livre. Qu'est-ce que la beauté? Est-ce que vous, Gérard de Santos, vous avez trouvé la réponse à cette question?
Oui, en effet, le bouquin, il travaille beaucoup sur cette question, parce qu'il se pose des questions. Par exemple, il faut imaginer, qu'est-ce que fait qu'une femme française, elle met des fleurs à la fenêtre, mais aussi en Chine, une femme fait la même chose, et en Afrique, la même chose, et en Amérique du Sud, la même chose. Il y a quelque chose de chez les humains qui cherche la beauté et que les animaux n'ont pas. C'est une chose strictement humaine. Alors, qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que ce sens technique que les êtres humains ont et pourquoi? Et cette question est beaucoup présente dans le bouquin, et on va avoir la réponse dans la dernière ligne du deuxième tome.
Donc on aura enfin la réponse effectivement à cette question. Alors je vais pas évidemment déflorer la réponse avec vous, d'autant que j'ai pas encore lu le deuxième tome, mais je vais vous poser la question d'une façon différente. Pour vous, Gérard de Santos, quelle est la beauté en littérature?
La vérité. On a trouvé qu'il y a un rapport entre la beauté et la vérité. Par exemple, nous lisons quelque chose dans un écrivain et on lit quelque chose qui dit « Mais ça, c'est vrai !» Et quand on voit qu'il a exprimé avec des mots très précis une idée qu'on savait, mais on ne pouvait pas le dire parce qu'on ne savait pas le dire de cette façon, on trouve ça beau. C'est beau parce que c'est vrai. Alors, il y a tout un rapport entre la vérité et la beauté. Et souvent, en littérature, on oublie. Parce que au XXe siècle, on s'est concentré beaucoup sur le style, les mots, le travail sur les mots. Mais la grande littérature, elle est sur la vérité. Les grandes œuvres littéraires, par exemple, si vous lisez Madame Bovary de Flaubert, c'est un grand livre de la littérature universelle parce qu'il nous dit une chose très vraie. C'est que les femmes mariés avaient des rapports extra-conjugales. Et au 19e siècle, c'était interdit de le dire. Mais Flaubert, il a exprimé cette vérité. Et c'est pourquoi Madame Bovary est un roman si important. Et on trouve la même chose avec 1984 de George Orwell, qui nous exprime une vérité profonde sur le totalitarisme. À la recherche d'un perdu de Proust, exprime des vérités profondes sur les mémoires de l'enfance, la nostalgie de l'enfance. Alors, il y a toujours un rapport entre beauté et vérité.
Et quelle est la vérité de ce roman, Gérard de Santos?
La vérité du monde où nous vivons. Au-delà de nos idées de conspiration, qui sont un petit peu basiques, mais il y a une vérité derrière ça, et on comprend par la vie de Kalous Goubenkian qu'il y a même des forces invisibles derrière ce qui est visible.
Merci beaucoup, Gérard de Santos. L'homme de Constantinople est paru aux éditions Hervé Chopin, deuxième tome donc prévu en janvier 2020. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous m'en direz des nouvelles. Main d'œuvre. Main d'œuvre.
Fanny Blechner.
Aujourd'hui, je suis
le lointain héritier de Gutenberg. Il y a un dessin avec à l'intérieur le nom, le prénom du bébé et l'adresse des parents. Je m'appelle Pascal Pinault et je suis compositeur typographe. Nous sommes dans l'atelier à l'Étorpresse de Paris. J'ai reçu un faire-part de naissance en deux couleurs à réaliser donc en 100 exemplaires. Je reçois le papier en 70 par 100 cm et moi, avec un massicot, je vais réduire ce papier au format 12 cm par 17 cm. Là, je vais prendre le papier que je viens de façonner, je vais l'aérer et le positionner sur la marge de la platine. La platine, c'est la machine sur laquelle va être imprimé le faire-part de naissance. C'est une vieille machine, celle-ci date de 1965-70. Alors, on a besoin de ce papier épais pour qu'on puisse apprécier le letterpress. Grâce à cette pression, ça va nous permettre d'avoir du relief en creux. Là, maintenant, je vais créer la couleur. Donc, j'ai choisi trois boîtes d'encre. Ce sont des bleus, un bleu réflexe, un bleu process et un blanc transparent. Et je vais mélanger ces trois encres pour créer le Pantone 283. C'est quand même une consistance assez dure pour que ça puisse effectivement tenir dans l'encrier. Ensuite, sur les rouleaux de la machine pour qu'ils viennent ensuite s'appliquer sur le papier. Je suis en train de vérifier la couleur et je m'aperçois que je dois rajouter un petit peu de blanc couvrant pour éclaircir le bleu que je suis en train de préparer. Nous avons reçu de la part du client un fichier numérique. Ce fichier numérique a été transféré chez un confrère pour transformer ce fichier sur un négatif. C'est à partir de ce fichier que nous allons pouvoir graver la plaque, qui servira donc à imprimer effectivement sur le papier, quoi. Cette partie consiste à graver cette plaque avec des lampes ultraviolettes. Maintenant que j'ai récupéré ma plaque polymère gravée, je vais l'adapter sur un support magnétique qui a été calé sur un châssis. Nous allons apporter l'encre qui est dans l'encrier sur les rouleaux afin que ces rouleaux viennent s'appuyer sur la plaque. Donc je démarre la machine avec la fameuse expression « gare aux mains ». Après avoir passé 3 ou 4 feuilles, j'ai pu régler ma pression et ajuster ma couleur. Maintenant, nous allons pouvoir rouler. Et bien voilà, maintenant le travail est terminé. Les parents du petit Armand n'ont plus qu'à envoyer ces cartes qui vont parcourir peut-être les quatre coins de la France pour annoncer la bonne nouvelle.
Aujourd'hui, j'étais
le lointain héritier de Gutenberg.
Sur RFI.
Café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Isabelle Chenu, Amélie Beaucourt, Fanny Blechner et Alain Pilot, bonjour tout le monde.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François.
On va parler disques dans un instant avec vous, Amélie.
Oui, je suis allée à Bordeaux pour un tout nouveau festival qui commence ce week-end, qui s'appelle Discothèque et qui met à l'honneur la musique et le partage.
Et après être allée faire un tour à Discothèque, Fanny, vous allez nous faire danser.
Bonjour Jean-François. Sur un mélange de musique traditionnelle et électro, pour cela je vous parlerai de l'album Dizer Tudzuala de Pulo NDJ. Il a été conçu et produit à N'Djamena, la capitale tchadienne qui est aussi un carrefour culturel.
Musique toujours avec vous Alain et un infatigable vagabond du blues français, Cisco Herzhaft, qui est aussi, et ce n'est pas anodin, le fils d'un horloger.
Au point de s'en être inspiré pour le titre de son album, Son of a Watchmaker, Cisco Herzhaft sera donc bien à l'heure dans quelques minutes.
Mais pour commencer, un détour par le Festival de Cannes, dernière projection aujourd'hui. 21 films ont été présentés en compétition et concours pour la Palme d'Or qui sera remise demain soir. Mais le Festival de Cannes, c'est bien plus qu'une compétition. Ce sont des centaines de films montrés dans différentes sélections, le plus grand marché du film et bien sûr au moins deux fois par jour des stars et des starlettes sur tapis rouge dont les photographes feront le tour de la, dont les photographies plutôt feront le tour de la planète. Cette dernière journée, on va revenir avec vous, Isabelle, sur les temps forts de cette 72e édition. À commencer par le scandale, la controverse qui a enflammé la croisette hier soir lors de la projection du film d'Abdelhadef Kechiche, le deuxième volet de sa trilogie Mektoum My Love.
Oui, après le film d'Abdelatif Kechiche, beaucoup de réactions outrées ou déçues. 3h30 de transe, filmé essentiellement en boîte de nuit, sur de la musique techno. Des gros plans sur les fesses ondulantes de ces actrices qui enchaînent non-stop les danses sexuelles et lascives, jusqu'à une scène des plus crues, pour ne pas dire pornographique, filmée dans les toilettes de la boîte de nuit. Quasiment pas d'histoire, juste une bande de copains, de cousins. Filles, adolescents, la liberté, ils sont à moitié nus en sueur, bref, une expérience radicale et des réactions qu'il était tout autant. 6 ans après la Palme d'Or, puis la controverse autour de la vie d'Adèle où les actrices Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos avaient notamment dénoncé des conditions de tournage éprouvantes, Abdelatif Kechiche a défendu son film « Mektoum My Love ».
À partir du moment où on tente une expérience nouvelle, tout le monde n'est pas ouvert à cette expérience. Et tout le monde n'est pas sensible à mon regard, au regard que je porte sur les autres. Et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas visible pour tout le monde, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du talent de mes acteurs et de mes actrices, pardonnez-moi de le dire, ils sont exceptionnels. Voilà. Et celui qui ne le voit pas, ne voit pas la différence de désir aussi, de renouvellement du cinéma par des caractères très forts qui n'ont pas peur de renouveler quelque chose dans la forme et dans le fond.
Et cette année, Isabelle, la compétition de l'avis général est vraiment d'un très bon niveau. Beaucoup de bons films, ce qui signifie que le palmarès semble très ouvert.
Oui, ça va être difficile pour les jurys, mais en tout cas, pour les critiques, le réalisateur espagnol Pedro Almodovar reste le chouchou avec son film « Douleur et gloire ». C'est un film autobiographique, l'histoire d'un réalisateur célèbre et vieillissant qui se retourne sur sa carrière et sa vie, qui se souvient de son enfance, de sa mère adorée, ainsi que de son premier grand amour. C'est l'acteur Antonio Banderas qui joue son double de cinéma.
Il y a des choses qui m'ont beaucoup surpris, par exemple la relation avec la mère. Il y a des gens qui demandent si c'est vraiment Pedro à l'écran. C'est réellement Pedro ? Et je leur dis, les événements qui sont ici n'ont probablement pas existé, mais ce n'est pas très important. Et c'est très beau la manière dont il a tissé cette toile, et très curieux pour moi de voir la capacité de se mettre à nu devant le public.
Et parmi les films remarqués également celui du coréen Bong Joon-ho.
Oui, avec Parasite, c'est une comédie satirique et cruelle sur les rapports de classe dans la société coréenne.
En fait, dans le film, effectivement, j'ai décrit ce fossé qui est énorme en fait entre les riches et les pauvres. Je trouve effectivement que dans la société coréenne, il n'y a plus en fait ce lien qui relie le monde en fait des riches et le monde des pauvres, et c'est ça qui est assez traumatisant. Et à la fin du film, on voit effectivement le fils qui dit oui, je vais acheter cette maison pour toi, papa, et on s'est tous dit. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de faisable, finalement? Combien d'années le pauvre garçon va devoir travailler pour pouvoir acheter cette maison? Et quand on a fait le calcul pour rigoler, il devait travailler 547 ans, sans dépenser un seul sou.
Bon, Pinto, ici on est au Bosquet, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais à l'époque on rentrait pas, c'était la plus grande plaque tournante du stupéfiant. Il y a eu le shit, la coke, et l'héroïne qui a ravagé tout le quartier. Tous les anciens sont morts.
Ok.
Et puis t'as eu les frères Mus qui ont nettoyé le quartier.
Frères musulmans ?
Ouais, la BAC.
La BAC ? Comment ça, la BAC ?
La brigade anti-cam.
Et la bande-annonce que l'on entend, Isabelle, c'est celle du film Les Misérables de Lajli.
Oui, gros coup de cœur pour ce film français. On suit un trio de policiers de la brigade anti-criminalité dans une cité de Montfermeil. Le film montre une jeunesse désespérée au bord de la révolte, prête à tout détruire, prise entre la police et les trafiquants en tout genre. Les Misérables de Lajli visent la Palme d'Or, mais c'est aussi un premier film. Et à ce titre, il pourrait également remporter la Caméra d'Or.
L'Afrique était présente à Cannes avec le film de la franco-sénégalaise Mati Diop et son film fantastique Atlantique.
Oui, première femme africaine en compétition. Une idée de film fantastique soufflée à la réalisatrice par Serigne, un jeune qui a quitté le Sénégal en pirogue en 2009.
Serigne, le héros du court-métrage Atlantique avec un S, m'a raconté que sur le bateau à bord, la pirogue qu'il a conduite jusqu'en Espagne, des hommes se jetaient dans la mer et se transformaient en poissons. Et qu'au moment où ils me parlaient, ils me disaient, tu sais, on se parle, mais en fait, je suis déjà mort. Quand on décide de partir, c'est qu'on est déjà mort, c'est qu'on est déjà parti, en fait. J'ai commencé aussi à regarder l'océan différemment, ou la notion de tombeau m'est apparue.
Mati Diop dans le Café Gourmand de VMDN. Merci beaucoup Isabelle Chenu et saluer tous les envoyés spéciaux de RFI sur la croisette. Et rendez-vous donc demain samedi pour la cérémonie de clôture de ce 72e Festival de Cannes. Ce sera bien sûr en direct sur RFI entre 19h30 et 20h30, heure de Paris. Amélie, vous nous emmenez à présent à la toute première édition du festival Discothèque. Ça commence à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, aujourd'hui jusqu'à dimanche. Un festival qui met en scène des artistes, mais aussi des amateurs autour d'un objet, le disque.
Oui, chacun présent ici a sûrement un album fétiche, un disque qu'il pourrait écouter en boucle ou qui lui rappelle un instant agréable ou triste de sa vie. Et bien c'est comme ça qu'a été pensé justement le festival Discothèque, mettre en avant le 33 ou le 45 tours qui prend la poussière dans votre grenier ou tourne en boucle dans votre manche-disque. Pendant 3 jours, des artistes mettent donc en scène leur rapport à la musique.
L'une des performances qui s'y joue s'appelle Ghost Rider et rend hommage au punk.
Exactement, le spectacle s'articule autour du premier album d'un groupe punk américain des années 70 qui s'appelle Suicide. Un duo de 2 artistes new-yorkais, Martin Rev et Alan Vega, 2 artistes qui ont un univers visuel et sonore un peu particulier d'ailleurs, que Renaud Cogeau, le metteur en scène et directeur artistique du festival, a tenté de recréer.
C'est un passionné de son, Vega, mais c'est également un passionné de lumière. Et il a très tôt travaillé dans des galeries new-yorkaises où il exposait ce qu'on appelle les Holy Sheets. Il imprimait des objets qu'il retrouvait dans des poubelles. Il faisait les poubelles à New York, hein, à Brooklyn. Parmi les déchets qu'il retrouvait, il construisait des formes sculptures avec l'intervention d'ampoules électriques ou de néons. Le néon est un objet très très présent dans le punk. Et ensuite, il a voulu fabriquer du son autour de cette structure-là en pensant que l'électricité, c'était aussi du son. Et de fait, dans la performance que je propose, les acteurs sont eux-mêmes inscrits dans ces structures, dans ces holy sheets, et à la fois on est sur une bande-son qui est fabriquée et générée en direct, qui rend également au bruitisme et au punk.
Un festival qui rend donc hommage à la musique et à l'effet qu'elle produit sur l'individu et sur la société, Amélie, et qui met également en scène non pas des professionnels du monde artistique, mais de simples bordelais, des gens ordinaire, un petit peu comme vous et moi, enfin surtout comme vous.
Tout à fait. Cette participation est d'ailleurs plutôt atypique puisqu'il s'agit d'écoute à domicile. Le principe, vous choisissez un disque refuge ou un disque doudou, comme dirait Renaud Cogeau.
Mignon.
C'est-à-dire un album qui vous est cher, qui raconte un morceau de votre histoire et vous invitez ensuite des inconnus à venir l'écouter chez vous, ce disque. 9 Bordelais se sont donc prêtés au jeu et ont accepté pendant une semaine de recevoir chez eux, dans leur salon, des gens qu'ils ne connaissaient ni d'Ève ni d'Adam pour leur faire écouter ce fameux disque doudou et l'histoire qui va avec, évidemment. Patrice, par exemple, a choisi de faire écouter l'album Scary Monsters de David Bowie. C'était lundi dernier.
C'est le premier disque que j'ai eu de David. Il faut savoir que l'œuvre de David, c'est essentiellement ça qui fait qu'aujourd'hui je suis l'artiste que je suis. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cet homme qui a traversé ma vie, je pense que je ne serais pas devenu un artiste. J'aurais peut-être continué à danser pour le plaisir, mais je n'aurais pas fait du spectacle avec la danse. Et Scary Monsters, c'est un album qui donc est le premier que j'ai acheté. Et surtout, c'est un album que j'ai acheté à un moment donné où j'étais au lycée technique. J'ai acheté ce disque à un moment donné où les ados de l'époque me traitaient assez mal. Et je me vivais comme étant un monstre. Et Scary Monsters.
Et vous, Amélie, vous avez eu la chance à Bordeaux d'assister à l'une de ces écoutes.
Tout à fait, Jean-François, et par chance, il faisait 25 degrés et un soleil radieux ce soir-là. L'écoute s'est déroulée non pas du coup dans le salon, mais dans le jardin d'un participant. Il s'appelle Sébastien, alias Petit Vaudeau, parce qu'il est aussi chanteur et musicien dans la vie. Nous sommes donc 7 personnes confortablement installées dans les hamacs et chaises de jardin de Sébastien. Et l'album qu'il nous a fait découvrir s'appelle Another Setting, du groupe anglais The Durity Column.
Je Dirty Column, c'est un pianiste qui s'est mis à la guitare, qui ne savait pas jouer de la guitare. Imaginez un adolescent seul dans sa chambre, qui ne partage pas les clubs de foot ou de sport avec ses camarades et qui, lui, partage uniquement sa passion pour la musique et qui, comme ne trouve personne, va le faire pour lui sur des magnétos à bande et va construire toute sa mythologie musicale personnelle, comme ça. Quand je suis triste, il me rend encore plus triste. Et quand je suis heureux, il me rend encore plus heureux. Donc je crois que c'est un amplificateur d'émotions. Et je crois que chacun a une histoire comme ça, avec des amplifications d'émotions. Et moi, c'est avec cet album.
Au-delà de la découverte musicale, ces écoutes organisées donc par le festival Discothèque sont l'occasion de créer une atmosphère intimiste entre des inconnus, de créer des moments propices à la confidence, de faire des rencontres, de partager en fait la musique et de partager autour de la musique.
Ces 9 Bordelais viendront également raconter l'histoire personnelle qui entoure le morceau qu'ils ont choisi. Ça se passera donc sur scène samedi au festival Discothèque à Bordeaux. Merci Amélie.
Lentement, va sûrement. Plein d'hommes, vas-y, fais ton boulot, mollo, mollo.
De la musique traditionnelle du Tchad, mais aussi de la musique électronique contemporaine, c'est le cocktail que vous nous proposez aujourd'hui, Fanny.
Oui, avec l'album Desert Douala, j'ai rencontré l'un des membres du groupe Pulo & DJ, il est italien, il s'appelle DJ Bosis. Il est aussi le fondateur du collectif AP, créé à La Havane en 2016, autour d'une envie de mêler donc ces deux univers musicaux dont vous parliez. Une idée qu'il a poursuivie à son arrivée comme expat à N'Djamena, au Tchad, où il a rapidement rencontré des musiciens avec qui il a formé ce groupe.
Par exemple, Idriss, qui est un joueur de garaya. Garaya, c'est une lutte à deux cordes traditionnelle de la population Peul. Et lui, il avait commencé à composer des chansons. Il a dit, bon, moi j'ai envie de ramener ces chansons, de l'actualiser dans une voix un peu moderne. Et donc on s'est mis autour de la table avec Ableton Live, avec des machines électroniques. On a commencé à composer dessus sans trop gâter l'idée initiale de la personne. Donc, dans le groupe, on est 5. L'inspiration, c'est Idriss, Sami et Walid, qui sont camerounais. Et après, il y a Stingo, qui c'est un Togolais, qui ça fait longtemps qu'il vit à N'Djamena. Et moi, aux machines électroniques.
Il y a donc le luth à deux cordes, mais aussi des percussions traditionnelles, un peu de batterie, du synthétiseur, de la guitare et de la percussion électronique.
Et ce sont des musiciens professionnels ?
Alors, par leur niveau, oui, mais ce n'est pas l'activité qui les fait vivre.
Malheureusement, au Tchad, c'est pas facile de vivre en étant artiste, donc il faut aussi se débrouiller, faire des autres choses. Donc Stingo, il est maçon, il y a des gens qui donnent des cours de musique dans la petite agriculture. Et c'était un peu ça à la base, des gens qui n'étaient pas forcément dévoués à la musique, même si la musique c'est l'activité principale de leur vie, qui se sont rassemblés autour de ces projets, Pulo & DJ. À partir de ça, on a composé des chansons. On a composé une quinzaine et après, c'était la visite de Nicodemus, un DJ et producteur.
Nicodemus, donc, que le collectif avait d'abord rencontré à Cuba avant de l'inviter au Tchad. Il a donné un cours de DJing à N'Djamena à des étudiants. Puis le groupe lui a présenté des démos. Il a vraiment participé à l'album.
Nicodemus, une vision globale. Il a joué pas mal de beats sur des chansons que vous écoutez dans l'album, notamment Un jour. Il nous a appris des nouvelles techniques d'élaboration électronique. Il nous a conseillé comment mettre les basses parfois. Il a donné une touche complètement world music qui manquait à la base, parce qu'on était tous en train de faire juste notre musique sans avoir un encadrement général. Vous l'écouterez même dans l'album, il est très varié, mais c'est ça qu'on voulait souligner sur l'album. Le Tchad a une variété incroyable qui n'est pas beaucoup discutée sur les médias, sur les plateformes internationales. donc international. Donc on avait envie de donner cette vibe variée du Tchad, et Nicodemus nous a aidé à mettre un cadre et mettre un peu un package autour et en faire un album.
Ces six musiciens ont donc mêlé leurs talents et leurs langues.
Pour parler, entre autres, de la vie au Tchad.
On aborde plusieurs thématiques, des thématiques plus traditionnelles. Par exemple, la première chanson, c'est sur les gossiping dans les tribus nomades du désert. C'est un thème assez discuté parmi la population Peul. Les deuxièmes morceaux, c'est sur les clans d'Omane. Et les clans d'Omane, c'est les mototaxis. Les mototaxis qui ramènent tous les gens partout dans la ville. C'est pas cher du tout, c'est sympa, ça te permet de voir la ville et d'arriver assez vite à l'endroit où tu dois aller. Et ça, c'est un tribute au mototaxi, au clan d'Oman, qui file dans toutes les rues poussiéreuses d'N'Djamena.
Et cet album, Desert to Douala, comporte donc 11 morceaux.
Écrit et composé à N'Djamena, mais qui ont vocation à séduire un public plus large.
C'est un projet très nouveau, aussi difficile parfois à comprendre tout de suite, dans le sens que c'est quelque chose qui est très typique du Tchad, mais qui arrive à toucher une population de la sous-région, parce que c'est pas chanté seulement en français, c'est pas seulement en langue locale tchadienne, mais il y a du Mina, que c'est une langue de la côte au Ghana, et il y a du Douala, que c'est une langue camerounaise. Donc ça parle à plusieurs publics, et on l'a vu déjà avec les vidéos des clans d'Omane qui est en train de tourner partout en Afrique. Ça a vraiment une bonne réponse. Donc on va tourner en Afrique, et l'espoir à long terme, c'est peut-être 2020, de se présenter aussi en Europe.
Oui, ce qui vous laisse donc un petit peu de temps pour découvrir et apprécier cet album Desert to Douala de Poulo NDJ, produit par le label Wonderwheel Recordings. Merci beaucoup, Fanny.
Ils ont voulu m'apprendre à marcher, mais je nageais déjà dans le liquide nuptial en apnée. J'ai tenu 9 mois. Maintenant sous CO2, je les vois tous sous CC. Pas besoin de marcher à deux pour pouvoir les fesser. Souvenir.
First time I saw the real blues man. It was in 1965.
Cisco Herzhaf, Time Blues Vet, avec à ses côtés Alain, le rappeur Rockin' Squad sur ce morceau, où quand deux générations et deux styles fusionnent.
Un quadra hip-hop d'un côté et un bluesman septuagénaire de l'autre, très ouvert, à la 73e place des hits thaïlandais avec ce nouveau disque, qui a joué au Maroc comme en Bulgarie, a notamment été sélectionné pour représenter la France à l'International Blues Challenge de Memphis aux États-Unis en 2012, dans la catégorie solo duo, dans cette Amérique des peuples indiens auxquels il fait référence à travers l'une de ses nouvelles compositions.
Alors, c'est les Cherokees, c'est un chant traditionnel Cherokee que j'ai retrouvé sur un très vieux enregistrement, très vieil enregistrement de chants indiens, et qui me semble aller très très bien avec cette chanson. C'est d'autant qu'Indian Trail Blues raconte les pistes indiennes qu'il y avait.
Le blues des pistes indiennes.
Le blues des pistes indiennes, tout à fait. Et c'était essentiellement des Cherokees qui habitaient dans ce coin-là.
Qu'a-t-il de particulier ce blues des pistes indiennes ?
Alors, je voulais rendre hommage, en créant ce blues, je voulais rendre hommage aux Indiens, aux Amérindiens, qui ont quand même eu une influence importante dans le blues et dont on ne parle jamais. Alors qu'en fait, si on regarde bien les biographies des grands bluesmen, hein, que ce soit Billy Joe Williams, Johnny Hooker, Muddy Waters, etc., ils avaient tous de la parenté indienne. Beaucoup de Cherokee, un petit peu Choctaw, et sans doute d'autres tribus, mais essentiellement Cherokee, Choctaw.
I gotta tell you a story about Clyde the Mississippi. There's a crossroad in the city. The 61 highway and the 49th. But a long time ago,
Indian Train Blues, Cisco Herzhaft, auteur, compositeur, fingerpicker, habile technicien du slide, qui serait le seul français à avoir accompagné le mythique John Lee Hooker en 1964 durant deux semaines, ce qui n'a jamais empêché son père, le fameux horloger, de dire à son fils que la musique qu'il faisait n'était que de la cacophonie. Est-il revenu sur ses dires depuis ?
J'en sais rien. Toujours est-il que c'était super, ça. Mon père qui entre dans la chambre, et puis j'étais en train de commencer à jouer du blues en écoutant Memphis Slim, un disque de Memphis Slim, et puis je jouais en même temps pour essayer de comprendre la suite de cordes, enfin de notes et d'accords qu'il faut jouer. Et mon père entrant, mais c'est quoi cette cacophonie? Parce que, mais je le dis souvent quand je fais des interventions dans des écoles de musique, je leur dis, mais d'après vous, est-ce que c'est normal, dans la théorie de la musique, qu'on puisse jouer sur des accords majeurs une gamme pentatonique mineure? Alors, ça c'est de la technique. Et ils disent, si on réfléchit bien, non. Je dis, pourtant le blues c'est ça. C'est-à-dire que c'est majoritairement des accords majeurs avec une gamme pentatonique mineure. C'est donc de la cacophonie. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on est habitué à cette cacophonie-là? C'est parce que c'est entré dans les mœurs. Moi je crois que c'est tout. C'est-à-dire que si on faisait écouter, moi j'ai fait écouter des morceaux de John Lee Hooker à des gens qui étaient dans une formation purement classique, etc., qui n'avaient jamais entendu ça, ou pratiquement jamais entendu, ou pratiquement jamais écouté. Il faut dire aussi qu'on ne les entend pas beaucoup à la radio. Qui me disaient qu'ils étaient là, mais c'était presque, ça les dérangeait presque. Enfin, on avait l'impression qu'ils étaient allergiques.
Donc votre père avait raison.
Mais mon père n'avait pas tort, je dirais. Qu'il ait raison sur autre chose, mais il n'avait pas tort. Mais je pense que le blues, déjà par l'intermédiaire du rock and roll, c'est devenu un son auquel les gens se sont habitués. All my life I couldn't measure how the time was passing.
That's the reason why I'm sure. Son of a Watchmaker, Cisco Herzhaft, sur son album du même nom sorti chez Blues & Trad Socadis, qui sera en concert le 4 juin prochain au Sunset à Paris.
That's the reason why I'm sure I'm now in each evening. The time I earned is surely better than the time I spent.
Merci Alain, merci aussi à Fanny, Amélie et à nos envoyés spéciales à Cannes. Dans une poignée de secondes, l'info, on se retrouve lundi pour une émission spéciale enregistrée à Chambord pour fêter les 500 ans d'un des plus célèbres châteaux de la Loire. Et vous m'en direz des nouvelles.
Partagez vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.